Mardi 20 décembre 2011, bienvenue à cette dernière émission de l'aérospatiale de l'année. Enfin, on prendra une petite relâche pendant le temps des fêtes, hein, au même titre que les expositions. Hein, il se passe très peu de choses pendant le temps des fêtes. Julie Gagné avec vous jusqu'à 18h30, accompagnée de Jacques Gignac à la mise en onde. En fait, je dis qu'il se passe peu de choses. Il s'en passe quand même en masse en art visuel, assez pour remplir adéquatement une émission d'une heure. On va rencontrer en deuxième partie d'émission E et O, c'est-à-dire Émilie Proulx et Olivier Roberge, qui cette année se sont adonnés à l'exercice de faire un blog et de chacun présenter une œuvre par semaine. Donc, 52 semaines, et là, ils achèvent là, leur blog. Là, on ne sait pas trop s'ils vont recommencer l'an prochain. On en discute avec eux. Catherine Boivin viendra nous parler des deux expositions de Paul Béliveau, soit la rétrospective au Cégep de Sainte-Foy et l'exposition de Paul Béliveau avec Catherine Blanchet à la Galerie d'Izara. Également, si vous naviguez dans l'univers des médias sociaux, si vous connaissez un peu Cooksasville, vous êtes fort probablement au courant de la méga controverse qui a été suscitée à propos de mélanger le tout. Donc, cette œuvre en forme de batteur à œufs géant qui a été proposée pour un centre culturel à Montréal qui a vraiment fait réagir Richard Martineau. Donc, on discutera de ça avec Pierre Sasseville. Également, pour la dernière fois cette année, Raymond Poirier nous fera sa revue de presse. Bonjour, Raymond.
Bonjour, Julie.
Un petit sujet là pour nous tenter.
Le dernier retour sur le Gala des arts visuels 2011, les lauréats ont été dévoilés la semaine dernière. On viendra là-dessus, entre autres sujets.
Et c'est la semaine des rétrospectives aujourd'hui. C'est la semaine aujourd'hui, le jour. Bref, c'est l'émission des rétrospectives. Cette semaine, Simon Roy nous propose une rétrospective de la musique de la saison. Bonjour, Simon.
Bonjour, Julie.
Comment vas-tu?
Ça va très bien. Mais oui, je voulais faire comme tout le monde. Vous aussi, je vais faire une rétrospective. Ça semble à la mode de ce temps-ci. Donc, ben, je vais embarquer moi aussi.
Tu as fait une sélection, en fait, de quatre pièces préférées?
Préférées ou qui m'ont marqué durant la saison. Des pièces, souvent, les pièces sont excellentes, mais les albums aussi au complet, c'est vraiment difficile de faire un choix. Donc, ben, c'est ça, je vous ai choisi quatre pièces pour l'émission. La première pièce qu'on va entendre, c'est un artiste de la ville de Moscou. C'est ABC 100. C'est tiré de son album Cosmic Dance of Tanzania. C'est sa pièce Gina and Mike Part 1, 2 et 3. C'est publié sur Webet and Records. Tout de suite après, ça va être People Like Us. C'est le pseudonyme de Vicky Bennett, une artiste de l'Angleterre qui se spécialise dans le collage audio. Elle fait aussi de la radio à WFMU depuis 2003. Donc, c'est sa pièce Average Too Far qui est tirée de l'album du même nom. C'est publié gratuitement sur Ubu Web. Ensuite de ça, un artiste de la Colombie qui demeure au New Hampshire en ce moment, il s'agit de Pat Siv. C'est sa pièce. Attendez un peu, c'est Reruns from SAG A. C'est sur l'album compilation Number Stations, donc un album assez mystérieux, publié sur Public Space Lab. Puis enfin, ça c'est peut-être mon coup de cœur de la saison, c'est un album de Manuel Chantre, un album fait donc dans un bloc de béton, un album qu'on peut brancher USB sur son ordinateur, donc un album vraiment original. C'est une compilation de ses plus récents travaux, donc son album s'appelle Memotion and Other Works. Je vous fais entendre la pièce pop continentale.
Et Simon, on peut t'entendre à Web Music dimanche. Est-ce que tu prends un congé, toi, pour les fêtes?
Oui, j'ai un congé forcé, donc j'aimerais bien faire mon émission, mais on va plutôt se reposer, puis ça va revenir l'année prochaine.
En janvier, donc?
Oui. Web Music, comme d'habitude, très dimanche à 20h.
Bien, Simon Roy, merci beaucoup.
Ben, merci, puis joyeuse fête à toute l'équipe.
Et joyeuse fête à toi également. Donc, on s'en va en pause audio. On écoute Gina and Mike, part 1, 2, 3 de ABC 100 sur les ondes de CKRL.
Thank you.
vient d'entendre un extrait de l'album Cosmic Dance of Tanzania. C'était une suggestion de Simon Roy, en fait, qui nous fait une rétrospective cette semaine. Si vous voulez trouver, vous voulez écouter les pièces, vous voulez les télécharger, vous pouvez aller le site. Allez sur le site de l'aérospatiale.wordpress.com. Également, l'émission est disponible en balado-diffusion. Il y a toutes sortes d'autres informations de nos collaborateurs, dont la revue de presse de Raymond Poirier, que Raymond s'apprête à nous faire.
Oui, et tel que promis d'entrée de jeu, en fait, on revient avec les lauréats du Gala des arts visuels qui ont été annoncés. En fait, le gala qui était mardi dernier, donc tout juste après l'aérospatiale, c'était le gala. Alors, les critiques demeurent envers cet événement, à mon sens, en fait, où Québec était peut-être un peu sous-représenté versus Montréal.
Presque exclusivement montréalais, on le sait, en dehors de l'île de Montréal, on est en région, n'est-ce pas?
Oui, ce qui était un peu dommage, parce qu'il y a eu, à mon sens, beaucoup de belles expositions à Québec qui auraient mérité de se retrouver en nomination dans ce gala-là. Cela dit, de Québec, on a été chercher, et le « on » est au sens très, très large, donc blogueur de l'année, Christian Messier de Punctum Art Visuel, donc qui a obtenu ce prix. Également, jeune commissaire de l'année, Marie-Ève Beaupré, qui s'était fait connaître avec son travail sur Est Nord-Est, Perdre le Nord, du côté de Saint-Jean, Port-Joli. Sinon, rapidement, meilleure exposition, centre d'artistes, c'était dans le ventre de la baleine du centre Optica, l'exposition de Marie-Claude Boutillier. Dans un centre de diffusion municipale ou culturelle, c'est une exposition de Jenny Hauser et la Fondation pour l'art contemporain. Donc, qu'il a obtenu meilleure manifestation artistique, papier 11, l'Association des galeries d'art contemporain. Sinon, on parle également de meilleure exposition en galerie privée, donc Petit Losange, Laquée Véné, de Valérie Blass à Parisian Laundry. Meilleure exposition dans une institution muséale, c'est le Musée d'art contemporain de Montréal qui l'a obtenu avec Anne-Ri et Salah. En région, on parle du centre expression, donc des objets sur des tables avec Alexandre David. Sinon, galeriste de l'année, Pierre-François Ouellette à art contemporain, commissaire de l'année, Nicole Gingras, et plusieurs autres prix là, qui ont été remis lors de ce gala. Les résultats sont aussi d'ailleurs sur la page Facebook de l'aérospatiale si vous allez lorgner de ce côté. On revient vers Québec. J'avais pas eu l'occasion d'en parler. Je me rattrape avant que l'année se termine et avant que la pause de quelques semaines s'entame. Alors, en fait, la Chambre blanche qui avait annoncé cet automne son programme d'artistes en résidence, donc quand même assez intéressant. L'idée, en fait, c'est de répondre à l'intérêt grandissant des entreprises pour l'innovation artistique, de favoriser également les rencontres et les lieux de rencontres entre artistes et entreprises. Alors, le Centre d'artistes a mis sur pied un programme de présentation d'artistes destiné au milieu entrepreneurial. Alors, l'idée, c'est que les entreprises paient pour une représentation d'une heure, c'est 300 $. On peut également avoir trois représentations, trois conférences pour 700 $. Donc, l'idée étant quand même de financer le centre aussi à travers ce programme-là. Et donc, la Chambre blanche a mis à la disposition des entrepreneurs et des personnes intéressées, donc 5 conférences de 5 artistes qui collaborent à la Chambre blanche. Alors, il y a Jean-Pierre Gauthier qui, lui, parle de sa démarche hybride intégrant art visuel et exploration sonore. Jonathan Villeneuve qui, lui, travaille à partir de matériaux utilitaires familiers qui évoquent l'architecture du quotidien. Frédéric Laliberté qui, lui, conçoit des situations visuelles et sonores, installations, sculptures interactives, art-action. Et enfin, il y a également Natalia Petkova qui travaille, lui, en art vidéo, qui travaille, elle, en art vidéo et en art sonore. Et pour terminer, Marie-Hélène Doré qui, lui, intègre le rendu d'images techniques, l'installation vidéo, la sculpture cinétique, l'art d'intervention. Alors, ces conférenciers-là ont monté leur présentation et sont disponibles en entreprise. Ce sera intéressant de voir peut-être dans un an, quel aura été le niveau de demande pour ces conférences-là. Là. Et si effectivement, il y aura peut-être d'autres centres qui verront un intérêt à faire des offres similaires. Là. Alors, on met ça dans notre pile de dossiers à suivre, mais une chouette initiative. Là,
vraiment, de créer ces ponts-là, là, c'est quand même assez peu fréquent que ça arrive. Donc, longue vie à ces initiatives.
Oui, et que de nouveaux ponts se créent également. Sinon, on fait le saut en France, Julie. En fait, c'est qu'à partir de mars 2012, il y a des consoles de jeux de poche Nintendo, des Nintendo DS, qui vont remplacer tranquillement les audioguides au musée du Louvre.
Attends, j'ai compris, des consoles de jeux vidéo poche.
Non, Nintendo DS, c'est la forme en poche. Alors, ça a été annoncé tout récemment, en fait. L'idée, c'est d'utiliser ces systèmes-là pour AudioGuide, bon, la 3DS, qui offre une vue en trois dimensions. Alors, on dit que le visiteur pourra se géolocaliser dans le musée, qui pourra suivre des parcours de visite, écouter des commentaires sur les œuvres. Alors, c'est en fait qu'on prend cet appareil-là pour bonifier l'AudioGuide par du contenu multimédia, que ce soit pas seulement audio, mais pouvoir intégrer l'image, la géolocalisation et d'autres outils comme ça.
Intéressant de voir comment ça va être fait.
Oui, effectivement, j'ai hâte de voir, en fait. Ça donne presque envie d'aller au Louvre.
Wow. Presque, ne serait-ce que pour ça.
Tu sais. Oui.
Mais en même temps, je sais pas, il y a quelque chose pour moi qui est de regarder une œuvre aussi, tout simplement. J'ai pas besoin de flafla, tu sais, je veux dire. Regarder l'art, c'est être en contact avec une œuvre, tout simplement.
Oui, c'est des nouveaux outils pour le vulgariser ou pour aider les gens à l'apprendre. S'ils sont bien utilisés, effectivement. Si on est là en avant de la Joconde ou d'une autre œuvre, regarder l'audio guide, il y a peut-être quelque chose qui marche pas.
Ouais.
On s'entend. Et on avait parlé il y a quelques semaines donc de ces éléments en cours donc aux États-Unis autour des questions de droit de suite des artistes. Et bien, cette multitude de recours contre des revendeurs d'art a amené un projet de loi qui vise à faire de ce droit de suite local un avantage national. Alors, ça a été proposé aux États-Unis. Alors, l'idée, en fait, c'est que 7% du produit de la vente de l'œuvre d'un artiste devra être restitué par les maisons de vente, et ce pour toute transaction qui excéderait les 10 000 $. Donc la moitié de cet argent serait remise à l'artiste qui a créé l'œuvre, et l'autre moitié à des musées d'art à but non lucratif, donc l'idée étant de subventionner aussi indirectement les institutions. Alors ce sera intéressant de voir si ça va être adopté, ça a été proposé tout récemment.
On attend des nouvelles.
Donc. On attend des nouvelles. Et le dernier, en fait, je sais, Julie, que tu vas en parler dans quelques instants, dans quelques minutes, mais je ne pouvais pas le passer sous silence dans le cadre d'une revue de presse. Ça a fait beaucoup réagir sur les médias sociaux. Donc, cet article de Richard Martineau, réflexion autour, réflexion, c'est un grand mot, propos autour d'une œuvre d'art public qui a été créée à Montréal par le duo Cook-Sasseville. Donc, ça a amené plusieurs réactions sur les médias sociaux également. Donc, des regroupements d'artistes qui sont portés à la défense du duo. On mettra un lien notamment vers la défense proposée par le regroupement des le RAV, Christian, donc le regroupement des artistes en art visuel.
Christian Bédard, le directeur général.
Alors, on mettra le lien sur le blog pour ceux qui voudront poursuivre un peu l'argumentaire suite à l'entrevue que tu réaliseras tout à l'heure avec Jean-François Cook.
Avec Pierre Sasseville, et Raymond Poirier, merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.
Il te reste une émission de la vie en BD,
je crois. Oui, dernière vendredi. On parlera notamment de BD réconfortante pour le temps des fêtes.
Oh, ben voilà, le sujet est lancé. Raymond Poirier, merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.
Passe de joyeuses fêtes.
Et on se dit au 17 janvier 2012.
Exactement. Mais d'ici là, l'émission se poursuit. On s'en va en pause audio. On écoute la pièce « A Bridge Too Far » sur les ondes de CKRL.
Come down, 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 come down Say, that's a nasty one. Kick a leg, 39 cents for a lap chop, 39 cents for a lima, 39 cents for a roll and chicken, 149 cents for a kick a leg, 39 cents for a lap chop. 39
pence pour ma foi fort joyeux à l'image du temps des fêtes qui s'en vient. C'était la pièce A Ridge Too Far qui est tirée de l'album du même nom de l'artiste People Like Us. Depuis le début de l'émission, on en parle. Ça fait une semaine qu'on suit le dossier, ou presque une semaine, en fait, plus précisément, je pense que c'est 5 ou 6 jours. Mélanger le tout de Cooksville fait vraiment une controverse assez intense qui a été au départ alimentée par Richard Martineau. Pour en parler, on rencontre Pierre Sasseville. Bonjour Pierre.
Bonjour, ça va bien?
Ça va bien toi?
Oui, en forme. Oui. Tout de suite en partant, là, je vais saluer mon collègue de travail Jean-François Cook qui malheureusement soigne un petit virus, donc ne pouvait pas être présent avec nous pour discuter de ce sujet chaud.
Et on lui souhaite donc prompt rétablissement.
Oui.
Première chose, en fait, je pense que Richard Martineau a commenté sans trop savoir qu'est-ce qu'était la commande, qu'est-ce qu'était votre intention. Peux-tu nous parler justement de la commande que vous avez reçue?
Oui, en fait, c'est un projet là, qui est dans le cadre, en fait, qui a été commandé, si on veut, par la Ville de Montréal. Donc, dans le cadre d'une nouvelle construction qui est liée à un centre qui existait déjà, qui est un centre communautaire qui s'appelle le Centre Jean-Claude Malépart, qui est dans l'arrondissement Ville-Marie à Montréal. Donc, nous, on s'est un peu basé sur la présentation, en fait, les contraintes que nous proposait le comité de sélection, donc qui avait retenu 3 artistes pour soumettre une œuvre. Donc, c'est notre pièce qui a été retenue, qui est un batteur à œuf manuel mesurant 5 mètres de haut. Donc, le projet, en gros, là, nous, on s'est vraiment basé sur le projet d'architecture comme tel, qui était déjà très, 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 je dirais, provoquant.
Oui, c'est assez atypique. Là.
Assez atypique comme projet d'architecture. Donc, en partant de ça, on s'est dit, bon, ben OK, on peut oser une œuvre qui parle de mixité, parce que c'est un sujet qui est d'actualité dans ce quartier-là, principalement, mais en amenant une touche d'humour qui est proche de notre travail en galerie, qui est caractéristique de ce qu'on fait. Donc, ensuite, bon, ben, on a gagné le concours, donc on a réalisé l'œuvre. Puis, ce qui est surprenant de la part de M. Martineau, c'est que, en fait, c'est public depuis qu'on a gagné le concours, que c'est sur le site de la Ville de Montréal, qu'il y a eu des communiqués de presse avec l'œuvre, tout ça. Donc, lui, il a décidé de prendre la nouvelle au moment où l'œuvre n'est pas encore inaugurée, en fait, où il n'y a pas eu encore de... si on veut, l'œuvre est encore en cours d'installation actuellement.
Ah oui, c'est ça, il n'y a pas eu de développement,
il n'y a pas eu de communiqué puis d'inauguration officielle qui présente l'œuvre. Donc, il est tombé un peu à un moment où, justement, bon, ben, pour ceux qui ont lu sa critique, je mets des guillemets ici autour du mot critique, ben, c'est des arguments qui sont plutôt...
démagogiques.
Ouais, on caresse le populisme, disons, en tout cas, bon, on sous-entend que les gens du quartier sont très pauvres, puis qu'ils ne sont pas en mesure de s'acheter des bâtons.
Ouais, ou c'est, encore que vous riez,
ce genre d'arguments-là, ouais, c'est ça. Donc, c'est de là qu'est parti le débat, disons.
Puis, est-ce que vous attendiez à ça? Je veux dire, bon, là, il y a quand même toujours une idée, bon, d'humour, un côté de provocation aussi dans votre travail. Est-ce que vous attendiez à autant réchauffer les esprits?
Non, pas autant, pas de cette manière-là. On s'attend toujours à ce qu'il y ait des réactions, parce que c'est sûr que le travail qu'on fait peut être provocant. On utilise souvent des objets qui font référence au réel, donc où on grossit les échelles, où on s'amuse à mettre dans certaines situations des références ou des objets connus par le public, tu sais, je veux dire, un malheur. C'est sûr qu'on n'a pas affaire à une œuvre abstraite qui se fond dans le décor urbain, disons. C'est un objet reconnaissable, donc c'est un objet qui va nécessairement susciter des réactions. La chose qui est peut-être décevante, c'est que M. Martineau, dans sa critique, semble prendre part partie que les gens n'aiment pas la pièce.
Ouais.
Ce qui est absolument faux parce que nous, on est en communication depuis le, en fait, depuis le début de,
du projet
ouais. avec les chargés de projet de la Ville de Montréal qui gèrent une collection de près de 320 œuvres, ce qui est pas rien, qui eux prennent le pouls des gens, des gens qui travaillent, par exemple, au centre communautaire, des gens autour, tout ça. Puis les réactions sont vraiment majoritairement positive face à l'œuvre. Donc, d'un côté, on a cette espèce de débat-là qui est mis sur la table par des journalistes qui sont probablement même pas allés voir la pièce. Puis de l'autre, ben, on a la réaction concrète des gens du quartier qui sont majoritairement relativement favorables à la mise en place d'une œuvre de ce type-là.
Puis en même temps, Martineau, ce qu'il a fait, c'est raviver une espèce de débat quand même assez assez actuel, en même temps qui est très ancien, c'est-à-dire la place de l'art dans une société, puis de dire, ben regardez, dans le fond, parce qu'il fait le parallèle aussi, hein, votre compte de taxes augmente de tel pourcentage, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a un batteur à œuvre de 75 000. Donc, il y a vivre quand même ce débat-là sur la place de l'art dans la société à travers votre œuvre.
Ouais, ben on peut questionner la façon dont il s'y prend pour amener cette question-là, disons, en faisant des comparaisons qui sont un peu douteuses, mais oui, d'une certaine façon, c'est je dirais qu'une mise à part son commentaire qui m'apparaît un peu impertinent, mais qui a amené le débat sur la table, il reste que c'est intéressant de voir qu'une œuvre d'art peut encore aujourd'hui susciter autant de réactions vives, disons, de la part du public. Donc, moi, j'ai toujours pensé que l'art public était là pour ça, d'une certaine façon, faire bouger les choses, provoquer, puis questionner, puis... Je veux dire, aujourd'hui, on fête cette année le 50e anniversaire de la politique d'intégration des arts à l'architecture. Donc, ça fait 50 ans qu'il y a des projets comme ça qui viennent un peu bousculer nos habitudes sporadiquement. Puis moi, je pense que c'est une bonne chose.
Mais penses-tu que la réaction est aussi forte? Bon, parce que c'est sûr que bon, Martineau a alimenté le tout, on le dit de manière plutôt cavalière, là, sans trop s'informer, il parle un peu bon, à travers son chapeau. Penses-tu que c'est parce que l'art public est rendu un peu trop sage, qu'il se rendu un peu trop conservateur que les gens réagissent autant?
Non, ben je pense que c'est une question de c'est drôle à dire, mais c'est un peu une question de timing. Dans le cas présent, on assiste à... Je veux dire, c'est délicat, mais par exemple, M. Martineau travaille pour Québec Art, ouais. Donc pour le Journal de Montréal. Ensuite, la nouvelle est reprise sur TVA. La nouvelle est reprise sur l'ensemble des médias de Québec Art, avec un angle de traitement de la nouvelle qui est plutôt axé sur le négatif.
Ben oui, êtes-vous d'accord?
Vos impôts servent à ceci ou à cela? Donc, on a un traitement de nouvelle qui est fait par le même empire, puis qui est taxé toujours à différents degrés, mais toujours de façon négative. Donc, on amène le débat mais en essayant, puis d'ailleurs, quand on va sur les médias sociaux, ce qu'on réalise, c'est que les gens se regroupent. Hein. Les gens qui aiment, par exemple, François Paradis, l'émission de François Paradis sur l'heure du midi, puis qui réagissent, vont tous aller dans le même sens, dans le sens de la façon dont la nouvelle est traitée. Donc, on a des commentaires comme, par exemple, « En avant de chez moi, il y a des nids de poules. » Cet argent-là aurait très bien pu servir à boucher les nids de poules.
Ben ouais, sinon, j'en ai des exemples, j'en ai sorti, du genre, maudite gang d'épais, on n'a pas besoin, et là, plusieurs signes de pièces, pourcentage, point d'interrogation, etc. Donc, on n'a pas besoin de ça, cibole dépensée comme une somme de 75 000 $ pour s'appayer par vos taxes, il vendra sa cochonnerie avec vraiment beaucoup d'erreurs, là.
Ben, c'est ça, c'est parce que souvent, on se retrouve à être victime un peu dans le milieu de, surtout quand on parle d'art public ou de culture subventionné, on se retrouve toujours dans des situations où on est confronté aux anecdotes des gens. Par exemple, M. Paradis, là, j'avais une entrevue téléphonique avec lui, me lisait une femme qui disait « Je travaille en santé ». Et il y a une petite fille qui, on n'arrive pas à lui payer les médicaments dont elle aurait besoin.
Ouais.
Cet argent-là, c'est touchant, mais c'est de l'anecdote. C'est
pas vrai, ça, en fait.
C'est pas vrai que si on coupe l'argent qui va au financement de la culture, en général, c'est pas vrai que si on coupe là, ça va aller en santé ou que ça va aller pour les transports ou que ça va. C'est, ça fonctionne pas comme ça. Puis une société qui est avancée, c'est une société qui comprend qu'investir en culture, c'est aussi important qu'investir en éducation, qu'investir en santé.
Ben oui, d'ailleurs.
On peut se questionner sur l'allure que ça prend. Je suis d'accord que les gens disent, ouais, mais pourquoi un batteur à eux? Puis là, ben, on est, là, c'est un autre type de travail. C'est un travail de médiation culturelle qui embarque. Mais de là à critiquer tout un programme puis à dire non, on n'a pas besoin de ça, ben, c'est très questionnable.
Mais on sent un peu qu'on est vraiment dans la culture de la désinformation. Donc, on lance quelque chose comme ça sans en exprimer toutes les facettes. Puis après, ben, les gens s'expriment à partir de la brime, finalement, d'information qu'ils ont reçue. Et ça fonctionne pas. En fait, il faut aller quand même au-delà
de ça. On leur donne les arguments. On leur dit, votre compte de taxe va augmenter.
Exactement.
Mais vous allez être content, il y a une nouvelle sculpture d'art public qui est aberrante. Donc, on leur met en bouche la raison d'être choqué.
Ah ouais, c'est son âge comme
ça. Les taxes augmentent, puis en plus, ils mettent une sculpture de même dans la face. C'est un peu ça, la logique, disons, de présentation de la chose.
D'ailleurs, tantôt, tu parlais, bon, une société en santé, c'est une société où la culture est en santé. Christian Bédard, directeur général du regroupement des artistes en art visuel, a bien mis, d'ailleurs, dans sa lettre, la citation de Bernard Landry qui avait dit « Une société riche matériellement, mais pauvre en culture, restera toujours une société pauvre. » Qu'est-ce que tu en penses de ça? J'imagine que tu es complètement en accord.
Ah, oui, je suis complètement d'accord avec ça parce que, je veux dire, à partir du moment où on décide, c'est difficile d'être en désaccord avec ça. Surtout ici au Québec, surtout avec ce qu'on voit, par exemple, je vais faire un parallèle un peu boiteux peut-être, mais ce qu'on voit actuellement avec ce qui se passe avec le head coach du Canadien de Montréal. Les gens qui militent pour le fait français, mettons, le Canadien de Montréal, on n'oubliera pas que c'est un organisme qui est privé, là. Mm-hmm. Mais tout le monde le considère ici comme faisant partie, avec raison, comme étant une institution culturelle qui a eu une incidence sur le fait français ici.
Ouais, sur le développement de la culture et tout.
Donc, c'est ça que je ne sais pas où je vais en venir avec mon exemple, mais bon.
Mais peut-être dernière question en terminant. Comment, toi, Pierre Sasseville, aimerais-tu que les gens perçoivent l'œuvre ou encore, quelle question aimerais-tu qu'ils se posent vis-à-vis votre œuvre au-delà des considérations un peu démagogues?
Ben, c'est pas tant de susciter des réflexions plutôt que de vivre avec des objets d'accepter la réalité autour de soi puisse être différente de ce qu'on perçoit, de l'ennui. Je veux dire, si on enlève tout ce qu'il y a d'art public puis tout ce qu'il y a de culture, je veux dire, la culture at large puis même des entreprises comme Québécois, qui s'attaquent de façon systématique à la culture subventionnée, mm-hmm. Parce qu'ils ont leur propre agenda culturel au bout du compte, je veux dire, c'est évident. Même des entreprises comme ça considèrent qu'on ne peut pas vivre sans culture comme être humain. On ne peut pas être ici, on ne peut pas vivre dans une ville où il n'y a rien d'intéressant, où il n'y a rien à faire, où tout notre argent est investi sur les nids de poules, puis sur les rues, puis sur les trottoirs. Donc, moi, ce que j'espère, c'est que nos pièces suscitent justement des débats, peut-être un peu moins virulents que ce qu'il y a eu dans les derniers jours, mais surprennent, déroutent, questionnent, amusent. C'est ça qu'on souhaite faire avec nos pièces.
Eh bien, Pierre Sasseville, merci beaucoup.
C'est un grand plaisir.
Le dévoilement de l'œuvre,
il est quand exactement?
Ça va aller au printemps. On va laisser donc les choses calmer. Ouais. Donc, d'ici là, on attend de vos nouvelles avec impatience. On s'en va en pause. On s'en va en pause. Au retour, on discute avec Catherine Boivin.
Jusqu'au 21 décembre, ne manquez pas les 12 jours de Noël de Tanière dans Change de Disque. Courez la chance de gagner un cadeau par jour pendant 12 jours. Membre de CKRL, soyez attentifs entre 15h30 et 17h30 en semaine.
Un concours qui fera papam-pam.
Au 5 à 7 de la Ninkasi, on vous propose une expérience 100% québécoise. Dégustez une multitude de bières de microbrasserie et de spiritueux québécois. Nous servons également de l'hydromel au verre. Pour le 5 à 7, la Ninkasi vous offre les lundis karaokés, les lancements d'albums le mardi, les parties de financement le mercredi et le show acoustique de Tamara et ses invités les jeudis et vendredis. Profitez de notre spécial du 5 à 7 sur la délicieuse pizza 7 pouces à $4. La Ninkasi du Faubourg, 811 rue Saint-Jean. Réservez votre 5 à 7 au 418-529-8538 ou sur laninkasi.ca.
La Corrigane, une publicité artisanale pour les bières artisanales.
Non, mais ça n'a pas de bon sens. Le monde ne se reconnaît pas là-dedans. On parle ici de monsieur, madame, tout le monde. Qu'est-ce qu'on pense, Steve?
Mais voyons, Pierre, on le sait pertinemment qu'il n'y a plus rien de bon Québec en bière, de toute façon, depuis les 10 derniers mois. On va prendre un premier appel.
Oui, moi, je voulais vous dire, je suis allée faire mon petit tour, ça, à Dorchester. Ça avait de l'allure. La Corrigane, là. C'était écœurant comme place, ça. J'aime bien ça.
Je peux pas croire encore aujourd'hui qu'il y a du monde qui est chez Dorchester.
Moi non plus. Dorchester, c'est vrai.
La brasserie artisanale de Corrigan, 380 Dorchester, Québec.
Dans Futur Simple, découvrez le monde de la science. Le tout vulgarisé est présenté par Valérie Levé et son équipe. Jeudi, 17h30. Seulement au 89.1. This is Tic-Tac-Toe.
Les mardis soirs, écoutez CKRL. 18h30. Découvrez les musiques et les voix qui ont fait l'âme de l'Amérique. Animé par Gilles Chaumel. L'émission de musique folk et ses légendes. Seulement au 89.1. Cultive tes goûts.
Try it now.
Cette soirée est une présentation du Bal du Lézard qui, à l'image de CKRL, vous offre une diversité colorée. 1049 3e Avenue, 418-529-3829.
Dernière de l'aérospatiale de cette dernière émission de l'Art de Dieu 2011. Et comme dernière chronique, on reçoit Catherine Boivin. Bonjour Catherine.
Bonjour Julie.
Ça va bien?
Ça va très bien, merci.
Tu es allée faire un tour pour voir deux expos?
Oui, de Paul Béliveau. Je sais que vous en avez parlé récemment.
Paul Béliveau et Catherine Blanchet, mais on n'a pas parlé encore de sa rétrospective, donc ça va
bien. OK. Ben, écoutez, moi, je cherchais en fait un sujet aussi pour aller voir pendant le temps des fêtes. Et en fait, en me disant, ben, la rétrospective qui a lieu en ce moment au Cégep Sainte-Foy sur Paul Béliveau, elle est en cours jusqu'au 15 janvier.
Ah ouais, bon.
Mais je me suis un petit peu cognée le nez sur la porte hier soir, puisque enfin, elle fonctionne avec les heures de la bibliothèque du Cégep Sainte-Foy. Donc, dans les faits, je ne suis pas certaine là, qu'il y aura ouverture vraiment par rapport à cela.
Mais pas moins, ça ouvre assez tôt, je pense, hein, les instituts de bibliothèque comme ça, là, au début du mois de janvier. Donc, il y aura de quoi...
Oui, quand même, oui, c'est ça. Il y aura quand même à aller voir, puisque quand même, quand on fait le tour, il n'y a pas grand-chose dans les centres d'artistes d'ouvert. Ceci étant dit, je suis allée voir Paul Béliveau aussi, parce que c'était une occasion de pouvoir voir sa rétrospective, puisqu'il y a des œuvres donc, qui sont là depuis les années 80. Et ça donne une espèce de panorama quand même assez sobre, parce qu'on parle en gros 14 œuvres, là, si on prend un ensemble de sculptures comme étant une œuvre et non pas des pièces détachées, sinon ça en fait plus. Et on peut voir justement quelques sculptures, lithographies, en fait, œuvres gravures et peintures, bien sûr, très connues pour la peinture.
Ben, oui, principalement.
Un caractère très, très réaliste. Et ce que j'ai apprécié, en fait, c'est justement de pouvoir revoir ces œuvres-là, faire le tour et de voir toute la cohérence dans le travail de Paul Béliveau depuis le tout début, avec les thèmes récurrents, les matériaux récurrents, le dialogue, bien sûr, avec l'histoire, avec les icônes, tout le travail sur la mémoire, et puis aussi, je dirais, le travail entre la culture et la nature, avec beaucoup de juxtaposition, de confrontation. C'est une œuvre quand même complexe, et dans le fond, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec cet événement Béliveau en fin de saison là, d'automne, c'est qu'on a deux catalogues qui ont été réalisés. j'ai pas la prétention de vous expliquer Paul Béliveau comme ça là, en 10 minutes, mais c'est vraiment intéressant. Donc, dans le cadre de cette rétrospective qui s'appelle « Confins des temps », il y a un petit catalogue qui reprend toutes les œuvres de l'exposition et des textes donc qui expriment de façon thématique, je dirais, l'œuvre de Béliveau à travers, dans le fond, tout son travail justement sur le temps, la mémoire. Et c'est 5 $ Vraiment.
Ah ouais, c'est oui, c'est pas cher quand même. Mais il est beau
oui,
ce catalogue.
Tout à fait. Bien, oui, c'est, on ne peut pas, je dirais, s'acheter un tableau de Paul Béliveau. On peut toujours acheter un catalogue. Et c'est la même chose aussi, dans le fond, pour l'exposition à la galerie de Sarah, dont vous avez parlé. Donc, c'est une exposition, un duo avec Catherine Blanchet. Paul Béliveau et Catherine Blanchet. Donc, Paul Béliveau nous présente sa toute dernière production. C'est Capture. Donc, est-ce que tu es allé
voir?
Oui,
c'est ça, d'écran d'images emblématiques là, des 50 dernières années d'accidents ou de drames américains.
Exactement, c'est ça. Et toutes sont toutes présentées avec un beau cadre en béton. Ils sont vraiment c'est ça, cloisonnés. Et puis, il y en a une de cette série-là. En fait, sur le modèle, mais le thème, c'est le thème des lévriers, des chiens, de course de chiens. Alors, c'est peut-être le même thème dramatique. Mais donc, dans la rétrospective, on va jusqu'en 2011. Et avec Kaléidoscope, les frissons du réel, autre petit catalogue, donc qui accompagne aussi la deuxième expo chez Tsara. Fait que là, je passe d'une à l'autre, là. Mais c'est pour vous mentionner, enfin, qu'il y a aussi ce petit catalogue qui explique bien aussi le travail de Paul Béliveau et de Catherine Blanchet, donc aussi 5 $ Première publication de
Tsara, hein?
Faite par les textes de Sébastien Hudon. Donc, donc, les expos terminent. Les expos ne sont pas accessibles, c'est un peu mon propos, mais il restera les catalogues pour les visiter. Et je voulais aussi en fait, souligner le fait qu'avec YouTube, ou enfin, les différents sites de vidéos, on peut voir la série des œuvres qui se termine demain hein, chez Tsara. Alors, ça vous donne pas grand-temps.
C'est 23, il me semble, chez Tsara.
D'après mes sources d'aujourd'hui, on va commencer le démontage, puisque les gens, ça a bien fonctionné. Plusieurs œuvres ont été achetées. Je pense qu'avant le temps des fêtes, les gens veulent récupérer leurs œuvres. Alors, ils sont ouverts, mais est-ce qu'il restera l'intégralité de l'exposition le 23? Donc, on peut aller voir sur YouTube. Ça, c'est M. Béliveau lui-même qui a fait une espèce de... Le petit film où on voit l'ensemble des œuvres qu'il présente chez Tsara avec une musique d'ambiance. Donc, c'est très, permet des moments sur image très, on sent bien, là, tout le poids de cette série-là avec une musique de Björk, là. Alors, c'est très recueillant, là, et puis très contemplatif. Ça dure 5 minutes environ. De la même manière, on pourrait aller voir une vidéo aussi sur le vernissage de la rétrospective au Cégep Sainte-Foy. Donc, on peut avoir une idée de l'accrochage des œuvres qui sont présentées. Il y a eu une conférence aussi avec Danny Quine et Paul Béliveau, qui est disponible en 3 parties, donc toujours sur YouTube. Alors, c'était une façon, je reviens avec mes chroniques l'art et le net. Là,
mais... Ben oui, c'est ça, parce que quand même, il reste des traces, finalement, de ces événements-là. C'est assez rare là, que c'est mis comme ça sur Internet, là, qu'on peut voir vraiment soit la disposition ou toutes les œuvres.
Oui, et puis c'est quand même aussi fait, je sais que c'est fait, il y en a un là, qui est fait au moins par M. Béliveau lui-même, et puis l'autre qui a été réalisé dans le cadre des gens de la galerie de... entre parenthèses, du Cégep Sainte-Foy.
Puis de toute façon aussi, si on veut compléter les informations, on a juste à taper Paul Béliveau dans Google, puis on va tomber aussi sur son site Internet.
Oui, il y a un très, très beau site, extrêmement. Et, oui, c'est ça. Et puis, pour rester dans le thème du marché de l'art, parce que c'était drôle, parce que dans la rétrospective, on ne sent pas justement la question des prix de l'œuvre d'art. Mais à la galerie chez Tsara, là, les prix sont quand même affichés. C'est une réflexion qui vient avec aussi.
Oui, parce qu'on a tendance à oublier, Tsara, ça reste d'abord et avant tout une galerie. C'est pas un centre d'artistes. Il y a quand même le but de la vente derrière, même si c'est pas toujours affiché là, de manière ostentatoire, de dire achetez-vous cette œuvre-là à ce prix-là, mais il y a quand même cette fonction-là de la galerie qui...
Oui, tout à fait. Puis là, on pourrait se demander justement par rapport à l'art et l'argent de ton micro précédent, c'est... Combien va valoir la sculpture de Cooksasville dont vous avez parlé dans 5 ans, là, avec tout le débat? Et puis, souvent, en fait, c'est ça, là. Ça prend de la valeur. Et puis, M. Béliveau, c'est un placement quasiment assuré. Je veux dire, il est représenté dans des galeries de par le monde. Il a une carrière internationale, disons-le, peut-être pas très connue ici pour monsieur, madame, tout le monde, là, de Québec, là, mais enfin.
C'est un artiste d'envergure.
Un artiste d'envergure, tout à fait. Puis là, il y avait une aubaine, enfin, si vous voulez aller vous acheter un Béliveau, là, elles ne sont pas chères en ce moment.
Oui, c'est ça, je pense qu'avec le petit format, là, ça aide également. Oui. Donc, t'as apprécié, Catherine?
Beaucoup, vraiment. Ben, c'est, comme je dis, c'est la question de... C'est des œuvres qui amènent à la réflexion, parce qu'on reconnaît les symboles, tu sais, c'est des images... Ben, tout le temps, on reconnaît les symboles, mais c'est la juxtaposition et c'est la présentation qui nous amène dans une réflexion de sens.
De continuité, justement, de rupture, comme tu parlais tout à l'heure, là, des fois des images de sculptures grecques classiques qui vont être mises en corrélation avec une image de Liechtenstein ou d'Andy Warhol, donc qui va nous amener à réfléchir soit sur l'art ou des fois, ben, c'est par le biais d'autres types d'écrits là, que...
Oui, tout à fait, c'est ça. Ben, moi, j'avais parlé du rapport culture et nature qu'on peut voir dans certaines de ses œuvres plus des années 90. Sa production plus récente où il était question de d'icônes plus populaires, là, de juxtaposition, le travail de la littérature. Enfin, c'est vaste, c'est vraiment fascinant, c'est intéressant. Et donc, je vous rappelle les petits catalogues et le bon travail qui a été fait sur... M.
Ben voilà, et si vous voulez voir la rétrospective, ben elle est là jusqu'au 15 janvier. Voilà. Profitez-en juste après le jour de l'an. Normalement, ça devrait ouvrir. J'imagine qu'on peut trouver aussi les informations sur le site du Cégep de Sainte-Foy là, en ce qui concerne la galerie.
Oui, ben en fait, je pense qu'il va falloir téléphoner là, pour avoir les heures de la bibliothèque parce que c'est enfin c'est là. Oui, c'est ça à compléter comme information là, parce que c'était pas. Affiché, enfin, de façon très claire. Je me suis un peu cogné le nez hier. Sinon, ben, je dirais, moi, je regardais ce qu'il y avait à voir, je sais pas, un rappel pour Rome à l'exposition au Musée de la Civilisation, puis les frères Caillebotte. Tout ça se termine en janvier, donc ça nous laisse le temps dans le temps des fêtes. Au Musée du Québec ou au Musée de l'Amérique, Musée de la Civilisation et tout son complexe muséal.
Ben, Catherine Boivin, merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.
Je te souhaite de joyeuses fêtes. Merci. Puis on se retrouve en 2012.
Oui, toi de même.
On s'en va en pause audio. On écoute Active avec la pièce Reruns from a SAG et sur les ondes de CKRL. c'était la pièce Rerun from SAG et Dative. C'est tiré de l'album Number Stations, une suggestion de Simon Roy pour sa rétrospective pour la dernière émission de la saison. Et pour cette dernière émission, on rencontre un duo de Québec, E et O. Ils s'appellent respectivement Émilie Proulx, bonjour.
Bonjour.
Et Olivier Roberge, bonjour Olivier.
Allô.
Comment allez-vous?
Ça va très bien.
Très bien, merci.
Et cette année, vous vous êtes donné quand même un gros mandat en début d'année 2011. Vous avez décidé chacun de réaliser une œuvre par semaine et de mettre ça sur votre blog. L'année achève. Comment ça s'est passé?
Ben, ça s'est super bien passé. En fait, ben, une œuvre, c'est un grand mot, là. C'était dans le but de nous permettre de nous pousser à faire plus d'exploration. Puis, ben...
Dans le domaine discipline aussi, il faut le dire, parce que des fois, le dimanche arrivait, puis oh, c'était le dimanche matin, oh, on n'a pas fait encore notre truc, il faut le faire, parce que notre deadline, c'était vraiment... dimanche minuit, on okay. Passe quelque chose sur le blog. Fait que c'était vraiment de la discipline, puis je pense qu'on l'a respecté tout le temps.
Mm-hmm. Parce qu'à la base, au début, on se donnait une semaine pour faire une pièce, puis très rapidement, on s'est rendu compte que c'était le dimanche que ça se passait, donc la dernière journée. Mais l'exercice a toujours été très, très stimulant.
Ça a dû être plus difficile par moment, je veux dire, dans la vie, il arrive des choses, on vit toutes sortes de choses. Je crois qu'en cours de route, là, vous avez eu un enfant, donc
oui, oui.
Vous avez une rigueur vraiment très forte, une volonté de respecter cet engagement-là?
Ben, en fait, ce qui va être agréable, c'est que, dans le fond, il nous reste 2 semaines pour clore l'année de création d'un par semaine, si on veut. Puis, on n'a pas encore... moi, je rangeais mes broderies dans l'armoire. Olivier, il s'était fait une grosse tablette, il mettait ça. Mais là, on va pouvoir les ressortir puis les mettre côte à côte. Puis là, vraiment, voir notre parcours. Puis c'est quand même drôle de redéfiler, d'aller dans les postes antérieurs sur notre blog, parce qu'on voit vraiment, on le sait, il y a des soirs, c'était comme, ah non, ça, c'était... On était à la course, puis donc, c'est vrai.
En fait, ça devient comme des instantanées, finalement, qui ont été prises tout au long de l'année. C'est comme, nous, je regarde une de mes petites sculptures, puis je revois la semaine que j'ai passée. Fait que ça, je trouve ça intéressant aussi. Carrément. Ça va au-delà de juste la petite sculpture. Puis, ben, tu l'as dit tout à l'heure, là, on a eu une petite fille en juillet, puis c'est un peu à cause d'elle qui est venue cette idée-là aussi. C'est parce que on savait qu'on allait avoir un enfant, puis on voulait voir si c'était possible, en étant 2 travailleurs autonomes dans le domaine des arts, de pouvoir, malgré le fait d'avoir un enfant, de pouvoir continuer à avoir une certaine discipline de création. Puis, je dois dire que, sérieusement, si on regarde, mettons, parce que sur le blog, on peut voir les heures auxquelles ont été postées.
Ouais, c'est souvent tard, hein?
C'est souvent tard. Et puis, je te dirais que dans les derniers mois, c'était la période la plus rushée. Puis, c'est là qu'on s'est le plus... on a eu le plus de rigueur, puis qu'on a réussi à...
Parce qu'il fallait s'organiser, en fait.
Exactement, c'est ça. Fait que finalement, depuis l'arrivée de Marguerite, on s'organise un peu plus. Puis, les posts sont un petit peu plus de bonheur. Fait que ça, c'est le fun.
Donc, ça se passe... C'est vraiment très bien, puis même, on s'est même posé la question, est-ce qu'on continue?
Est-ce qu'on allait faire? Est-ce qu'on continue?
Ben, c'est sûr que l'exercice est super intéressant. Là, faut prendre un recul par rapport à celui-là, puis regarder la relation, comme on disait tout à l'heure. On veut faire une espèce de topo, voir qu'est-ce qu'on fait avec ça, parce que bon, ça prend de la place, là. Moi, j'ai 52 pièces, puis Emily 52 broderies, là. Qu'est-ce qu'on fait avec ce matériel-là? Et puis, de regarder dans quelle direction. C'est sûr qu'on continuera pas exactement comme on le fait, ça va être différent, mais on veut continuer à donner cette discipline-là là, de un par semaine.
Puis une formule aussi nouvelle, dans le fond, on souhaiterait continuer à faire vivre notre blog aussi, parce que les visites sont là à chaque semaine, le dimanche soir, ben hop, là, le lundi, il y a un boom, les gens sont allés voir, donc c'est vraiment de continuer. On trouvera une formule d'ici quelques semaines.
Et est-ce que vous aimeriez éventuellement, parce que c'est quand même beaucoup de travail, là, une œuvre par semaine comme ça, est-ce que vous aimeriez les exposer, faire quelque chose avec ça par la suite?
Ben, jusqu'à date, c'est sûr qu'on avait pensé à l'exposition, mais peut-être que la publication, faire un recueil finalement, avec où est-ce qu'on peut élaborer un discours autour finalement de ces rencontres-là entre nos différents, entre les broderies d'Émilie et mes sculptures.
Il faut dire que ceux qui ont visité notre blog, les titres et les petits commentaires qu'on faisait étaient toujours très révélateurs. Donc, c'est sûr que ça va ensemble. Puis, de toute façon, les mots sont toujours présents autant dans mon travail individuel, dans le travail individuel d'Olivier, que dans notre travail en tant que E et O. Les mots, la narration, c'est très important. Donc, les titres de nos trucs à chaque semaine, les petits commentaires, ça fait partie de l'œuvre. ben, pas de l'œuvre, mais de la création de la semaine, si on veut. Donc, le recueil est là. Puis moi, j'ai encore en tête peut-être l'idée d'exposer ça, mais bon, reste à faire les recherches.
Tout à l'heure, Olivier, tu disais c'est intéressant pour nous parce qu'on à chacune de nos créations, on pense à la semaine qu'on avait passée à ce moment-là. D'ailleurs, vous nous avez un peu invités là, carrément dans votre quotidien, dans votre vie à travers vos créations. On sent la grossesse avancer, on sent les projets aussi de part et d'autre.
Ben effectivement, puis c'est aussi on peut regarder aussi, puis on peut faire des liens par rapport aux explorations qu'on a faites, puis comme là, présentement on participe à l'exploration spatiale là, dans le cadre de la capitale au Musée du Québec. Puis quand est venu ce projet-là, c'est sûr qu'on a puisé beaucoup dans ce qu'on avait exploré au courant des derniers mois dans nos un par semaine. Là. Fait que c'est comme si on était rendu avec un gros coffre à jouer.
On a une banque à idées, un coffre à... C'est vraiment ça, là, on a...
Un terreau vraiment fertile, oui, vraiment à créer à partir de ça.
Parce qu'on a expérimenté, on a essayé des choses qu'on n'aurait pas fait autrement que sous la petite pression de « Ah, ben OK, faut faire quelque chose, là, faut qu'il y ait... » Bon, donc, on a vraiment un coffre à idées merveilleux.
Ce que je trouve intéressant aussi, c'est l'obligation. Tu sais, des fois, je trouve que... Les artistes vont peut-être comprendre un peu ce que je veux dire, mais des fois, on a trop tendance à être dans notre tête, puis on perd de vue le plaisir qu'on a à créer, finalement, à réaliser des choses. Puis on est tout le temps en train de faire des projets. Tu sais, le projet est vendu avant qu'il soit créé, plus souvent qu'autrement. Puis là, c'était de retrouver le moyen de pouvoir se faire plaisir, tu sais.
Ouais, pas comme Alexandre Jardin qui cherche tout le temps à renouveler l'amour, mais c'est un peu ça pour moi avec la création, finalement.
On pourrait dire, oui. Puis dans le fond... Ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'il y a des journées où est-ce que c'était, tu sais, bon, je me rappelle une journée entre autres, là, où est-ce que ben, j'avais fait un contrat pour un escalier, puis ça a été très long, puis je suis revenu chez nous à 10h le soir, puis tu sais, il me restait 2 heures pour faire mon truc, puis tu sais, ça me tentait pas, puis à un moment donné, tu fais comme, bon, tu sais, le monde s'en rendront pas compte, là, puis tu sais, c'est pas grave si je le
pose. Ouais, ouais, ouais.
Puis au contraire, on n'a jamais débordé finalement, puis je me suis dit, donne un coup de pied dans le cul, je me suis dit, m'a faire de quoi? Puis ça a été impulsif, c'était pas fait dans le bonheur puis ça, mais en même temps, j'ai fait quelque chose que j'aurais jamais fait dans une autre condition que ça, puis c'est ça que je trouvais vraiment intéressant de l'exercice, tu sais, de voir que la création est tout le temps là, même, bon, après ça, on peut discuter, il y en a qui disent, bon, c'est plus réussi, mais il y a toujours quelque chose à retirer, finalement, de chaque exercice, là, fait que...
Et là, vous avez travaillé principalement individuellement sur ce blog-là, mais vous avez aussi une pratique ensemble, E et O. Qu'est-ce qui, comment est-ce que E et O réconcilient finalement vos pratiques individuelles?
Ben, je pense que la base, c'est la narration. C'est toujours ça. C'est le jeu qui a fait qu'on s'est rencontrés. Tu sais, dans le fond, en 2005, on a fait un projet de jeunes volontaires ensemble qui était de faire de l'exploration au niveau paysage, miniature, maquette, photographie. Et puis, Émilie s'est très vite dirigée vers le textile. Puis moi, ben j'ai poussé encore plus la maquette. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que ça me prenait des connaissances au niveau du bois. Puis c'est ça qui nous a amené en métier d'art après. Émilie en création textile, puis moi en ébénisterie. Donc là, c'est après ces années d'études-là, ça fait un an qu'on a officiellement fini. Ouais. Donc on se retrouve, mais avec notre bagage, chacun de notre côté, Émilie par rapport au textile, moi l'ébénisterie. Et c'est pas la matière en tant que telle qui nous rejoint, c'est vraiment le désir de raconter. Fait que ce qui fait qu'on va partir sur un projet ensemble, c'est qu'on a une idée commune, on a l'idée d'une histoire, puis là on va décider de comment qu'on l'illustre cette histoire-là. Donc, ça peut sortir du textile puis du bois. C'est vraiment la narration qui est à la base de notre travail, je dirais.
Peut-être le ludique aussi, hein? Il y a toujours un côté assez ludique à votre travail. On sent, en fait, le ludique, pour moi, il passe. On sent que vous vous amusez ce que vous faites et ça transparaît dans votre travail.
Ben c'est le fondement même de notre relation, c'est le jeu. T'sais, nous, on aime ça avoir du plaisir dans la vie.
Je pense que notre cœur d'enfant est très grand et très là. Il y en a qui gagneraient à le retrouver, mais nous, on l'a pas perdu, puis on l'exploite vraiment. Le jeu, ça fait partie de notre vie. C'est comme le jeu, le plaisir. T'sais. Moi, je fais à manger chez nous, c'est un plaisir. Je pense que ça transparaît dans nos créations. Donc, c'est là le côté ludique et non nécessairement drôle, tu sais, c'est vraiment juste le, on ressent l'aspect pas enfantin, mais un
petit côté naïf,
spontané. La spontanéité aussi, c'est important, tu sais, pour l'émerveillement, c'est comme quand on voit quelque chose de beau, c'est tout de suite waouh, tu sais, puis ça touche, je sais pas pourquoi, mais c'est waouh, tu sais. Donc l'émerveillement, c'est ça. Puis je pense qu'on on essaie de faire ça.
En fait, par le jeu, on essaie d'éliminer le plus possible la censure, parce que des fois, on pourrait être porté à dire, bah, c'est cucu, ou c'est trop cute. Nous, c'est vraiment le but, c'est le plaisir du jeu. Puis souvent, ben, c'est ça, c'est ce qui nous amène à créer, finalement.
Peut-être l'émission tire à sa fin. Dernière question, qu'est-ce qui s'en vient là pour EO? Parce qu'on peut voir exploration spatiale jusqu'à mi-janvier, mais j'ai un projet à venir.
En février à Trois-Rivières, une exposition collective, donc c'est pas EEO, ce sera Émilie Proulx avec d'autres artistes à Trois-Rivières en février. Et puis des projets là, qui vont se tramer pour EEO, pour Olivier Roberge aussi.
Il y a puis un lancement de publication pour la suite de Meubles et Mouvages chez Materia en janvier, à laquelle j'ai participé.
Ben voilà, Émilie Proulx, Olivier Roberge, merci beaucoup.
Merci.
On veut vous suivre sur votre site proulxroberge.blogspot.com. On peut aussi revoir donc toutes les choses qui ont été postées au courant de la dernière année. Malheureusement, on n'aura pas le temps d'écouter la dernière pièce de l'émission, mais quand même, vous trouverez le lien sur le site internet de l'émission. C'est Emmanuel Chantre avec la pièce Pop Continental qui était tirée de l'album Memotion and Other Works. Ben, je vous remercie pour cette année à l'aérospatiale. Je remercie également Jacques Gignac pour son travail à la mise en onde. Avant de quitter, ben, je vous invite ce jeudi dès 17h à aller au vernissage de Nous irons au bois, donc une présentation d'ex-muraux qui a été faite sous le commissariat d'Émilie Roy. C'est présenté au Jardin Saint-Roch tout au long du temps des fêtes, donc peut-être un contrepoids à la magie de Noël de Québec. À Dabra également, ben, les musées sont ouverts dans le temps des fêtes, donc ça vaut la peine d'y aller pour voir dans l'intimité des frères Caillebotte ou encore l'exposition Rome qui se termine. Sur ce, ben, je vous souhaite une très, très bonne année à tous. On se revoit en janvier avec encore une belle année en art visuel. Et je vous laisse entre les mains de Gilles Chaumel avec Folk d'Amérique.